tout de suite sur MDM. Les Landes, c'est ma nature. L'environnement dans notre région. Avec Jeanne-Marie et Marie-Claire. Les Landes, c'est ma nature.
Bonjour à tous les auditeurs des Landes, c'est ma nature. Alors aujourd'hui, Marie-Claire et moi, nous nous sommes déplacés à Banos afin de rencontrer Isabelle Cazobon, qui est éleveuse de brebis, donc avec un choix donc, d'agriculture bio. Et pour commencer, eh bien, on va lui demander de se présenter.
Oui, bonjour, donc c'est Isabelle. On est à Banos, à la ferme Péos. Et donc, je suis native de Banos. J'ai grandi à la ferme Péos, qui est la ferme de mes parents, de ma mère maintenant, puisque mon père est décédé. Et donc, j'ai grandi à Banos tranquillement dans les années 80, à la ferme. Mes parents étaient agriculteurs, donc quand je rentrais de l'école, moi, la première chose que je faisais, c'était jeter le cartable et j'allais à l'étable. Donc, mon enfance, ça a été ça. Et j'ai fait des études longues. J'ai choisi parce que j'aimais bien l'école, tout simplement. Et donc, j'ai fait un diplôme d'ingénieur des travaux agricoles que j'ai fait à Clermont-Ferrand, à l'ENITA de Clermont-Ferrand. Et j'ai toujours été intéressée par l'élevage, donc j'avais choisi Clermont-Ferrand parce que c'est une région d'élevage. Et le parcours de l'ENITA était vraiment axé sur ça, contrairement à d'autres écoles d'ingénieurs. Donc, des choses naturelles qui se passent. Voilà, je suis à l'école, j'aime l'école, donc j'y suis longtemps et dans le milieu qui m'intéresse, c'est-à-dire le monde de l'élevage et qui est encore à la maison aussi, puisque mes parents étaient agriculteurs.
Alors justement, vous êtes installée sur l'exploitation familiale dont vous êtes la quatrième génération. Alors que faisaient par exemple vos ancêtres sur cette exploitation avant ?
Oui, donc la ferme Péos, elle a été achetée en 1922 par mes arrière-grands-parents. Donc c'est une rareté un peu en Chalosse, puisque du coup on est d'une famille qui n'ont pas été métayés. Ils ont été propriétaires très tôt, contrairement à d'autres. Mon père qui s'est marié avec ma mère, lui il était métayé encore, ils sont restés métayés je crois jusque dans les années 70, vous voyez. Donc mes arrière-grands-parents en 1922, eh ben, c'était la polyculture, polyélevage. Hein. À l'époque, on avait deux vaches pour tirer le brosse. Avec le brosse et quelques outils, on faisait du blé, quelques cultures, un peu de maïs et la vigne, qui était la production principale de la Chalosse jusque dans les années 60. On a tendance à l'oublier. On faisait un peu de maraîchage et puis tout le surplus, on allait le vendre au marché. Donc on avait quelques animaux, un peu de tout, un peu de rien. Et c'était assez autarcique en fin de compte. Et cette agriculture, elle s'est prolongée avec mes grands-parents, Marthe et Joseph, qui ont poursuivi l'achat de la maison, qui n'était pas terminée quand même. Il a fallu deux générations, je crois, pour la payer. Et ça, jusque dans les années 60. Et après, donc, ça a été la génération de mes parents. Donc c'est ma mère qui est native d'ici, de Péos. Et mon père, lui, était de Saint-Sevé. De Saint-Sibat, une métairie. Et eux, ils ont connu la révolution des années 70, qu'on a oublié aussi, tellement ça a été lapidaire, je ne sais pas comment dire. Mais en l'espace de leur génération, tout a changé. Donc, Péos, ben, comme partout, les vignes ont été arrachées. On s'est mis à faire du maïs sur toutes les terres qui étaient bonnes pour faire du maïs, puisque c'est le maïs hybride qui est arrivé, les semences qu'on achetait. Alors qu'avant, on n'achetait pas les semences. Et là, on avait des semences avec des engrais qu'on achetait aussi et avec des rendements fabuleux, du coup. Donc, partout où on pouvait faire du maïs, on faisait du maïs. Et on s'est mis à engraisser des animaux, puisqu'on avait du maïs. Donc, ben, mes parents, ils faisaient des vaches. Et donc, ils vendaient des vaches et des veaux. Et ils engraissaient des canards. Ils se sont mis à gaver des canards, comme tout le monde. Et donc, moi, j'ai grandi, j'ai vécu la ferme telle qu'elle était par mes parents, quoi. Avec des vaches. Des canards, et voilà. Donc eux, ils ont arrêté leur activité en 2000, l'année 2000. Ils étaient retraités. À l'époque, personne n'était intéressé pour reprendre, puisqu'ils ont plusieurs, enfin, on est plusieurs frères et sœurs. Moi, je suis la dernière. Et mon père s'était débrouillé pour garder quand même la petite propriété un peu sous son aile. Peut-être il sentait que quelqu'un viendrait, ou peut-être il espérait, sans le dire. Parce que ce que je veux dire, c'est que la propriété, elle fait 12 hectares et depuis 1922 et elle ne s'est jamais agrandie. Donc aujourd'hui aussi, elle ne fait que 12 hectares, mais enfin, on est toujours là, quoi. Donc moi, j'étais à l'école à cette époque-là. Après, je suis partie travailler parce que j'avais envie de travailler. J'ai eu la possibilité de faire 12 ans de salariat en chambre d'agriculture et je suis revenue 12 ans plus tard. Donc j'ai eu la chance de pouvoir m'installer sur une ferme qui existait, que je connaissais, chez mes parents en plus. Et du coup, moi, j'ai amené mon projet, qui était encore différent de celui de mes parents, puisque eux, ils avaient arrêté. Ils avaient cessé leur activité, vendu les vaches, vidé les bâtiments, etc.
Ça a été donc une révolution agricole extraordinaire.
Ouais, complètement, très brutale. Et on ne peut pas même imaginer... Les changements qu'il y a eu en l'espace de 30 ans, on a anéanti 2000 ans d'histoire agricole, je pense, puisque la polyculture, polyélevage, avec tout le savoir-faire autour des semences, tout le savoir-faire autour de la production, de l'autonomie, tout ça, ça a été un petit peu mis de côté, voire balayé par l'achat. On achète ce qu'on fait, quoi. On achète les semences, on achète les produits qui servent à entretenir les cultures, on achète les animaux. On est rentré dans une autre forme d'agriculture en espace de presque d'un claquement de doigts. Donc c'est vrai que c'est une révolution.
Et comment avez-vous mûri votre projet actuel ?
Alors ça, c'est très difficile. On me pose souvent la question, mais moi, du plus vieux que je me rappelle, moi, de ma mémoire, je pense que j'ai toujours voulu être ce que je suis aujourd'hui. J'ai toujours aimé les animaux. Si j'avais pu, j'aurais eu des vaches, mais là, c'est trop compliqué. Mais du coup, je ne me voyais pas sans brebis ni sans vaches. J'avais le goût pour ça, vous voyez. Alors, je n'avais pas envie non plus de m'installer tout de suite. Mais c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, puisque j'avais la ferme de mes parents. Contrairement à d'autres que je connais qui sont hors cadre familiaux.
À la fin de ce premier volet, vous savez que traditionnellement, on propose une chanson. Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson ?
Alors, comme première chanson, j'ai choisi « Nougat York » de Claude Nougaro.
toujours dans l'élan de Sema Nature et toujours chez Isabelle Cazobon à Banos, qui nous a expliqué comment elle en est arrivée à être éleveuse de brebis dans sa ferme. Et maintenant, elle va nous expliquer quelle est son activité journalière.
Donc comme je vous disais, moi j'ai toujours aimé les animaux, donc j'ai choisi d'élever des brebis laitières, mmh. et de faire toute la fabrication de A à Z, donc l'élevage des animaux, la transformation du lait en fromage et la vente directe de ce fromage. Donc j'ai choisi d'élever des basco-béarnaises, c'est des brebis qui sont originaires des Pyrénées, brebis assez rustiques, très gentilles, et donc quotidiennement je suis avec elles, donc que ce soit pour m'occuper d'elles ou alors pour traire, puisque pour faire du fromage il faut tirer le lait quoi, et donc c'est une activité qui est saisonnière, donc là en ce moment pendant l'automne là, les brebis sont avec les béliers, elles vont donc rentrer en gestation et elles vont donner naissance à un agneau au mois de février, elles vont s'en occuper jusqu'au mois de mars. Donc là, moi, je vais vendre les agneaux pour la boucherie. C'est ce qu'on appelle l'agneau de lait. Et je vais en garder quelques-unes quand même pour le renouvellement. Et une fois que les agneaux sont vendus, je vais commencer à traire. Donc je traie matin et soir de mars à août. Et donc avec ce lait, je fabrique essentiellement de la tome de brebis, style tome des Pyrénées. C'est un fromage de garde qui est fait pour garder très longtemps. Donc je peux en vendre presque toute l'année. Et je fais aussi quelques fromages frais et quelques yaourts et quelques caillers et quelques conserves aussi avec la viande des brebis. Voilà. Donc mon activité, elle se déroule toute l'année comme ça au gré des saisons. Bon, je fais aussi le foin, bien sûr, l'entretien des terres et voilà.
Et la traite des brebis, c'est quand dans la journée ?
Donc c'est le matin. Et le soir. Donc le matin, je traie vers 6h30 et après j'enclenche la fabrication du fromage. Et après je les retraie le soir vers 18h. Et donc ici, moi j'ai choisi de travailler enfin, sur un mode très, très extensif, on va dire. C'est-à-dire les brebis sont tout le temps dehors. Parce que moi ça me plaît de les voir dehors. Et pour moi les animaux, ils doivent être dans leur milieu, si possible. Alors bien que ce soit de l'élevage, hein, c'est pas des animaux sauvages. Mais enfin, je privilégie au maximum l'environnement pour mes animaux. Donc elles sont le maximum de l'année dehors. Elles mangent donc de l'herbe, essentiellement, au pâturage. Et pour compléter, en hiver je leur donne du foin, du regain quand j'arrive à en faire. Et je fais un peu d'orge et de maïs aussi pour compléter la ration. Donc j'ai la chance de pouvoir être autonome sur la production sur ma production, puisque j'achète pas de nourriture pour donner aux animaux. Tout est produit ici. Ça, c'est une grande chance.
Et est-ce que vous utilisez la laine ? Est-ce que quand vous l'étendez, c'est à quelle périodicité ? Et qu'est-ce que vous faites de la laine ensuite ?
On tond les brebis une fois par an. Moi, je le fais au mois de juin. Alors, je fais venir des tondeurs, hein, parce que moi, je ne suis pas capable de le faire. Et donc, malheureusement, la laine, c'est un déchet aujourd'hui. Plus personne n'en veut. C'est devenu... Ça fait partie des absurdités de notre monde. Hein. C'est une matière première disponible, pas très chère, de qualité, mais comme il n'y a plus d'outils industriels pour la valoriser et plus de demandes non plus, eh bien, on l'a sur les bras, comme on dit. Et moi, par chance, j'ai plusieurs connaissances qui ont des vergers, donc on s'en sert pour pailler autour des arbres. Hein. Ça fait un excellent engrais et aussi un paillage naturel contre la pousse de l'herbe. Donc je la valorise comme ça, c'est-à-dire en engrais pour les végétaux, quoi.
Et pour faire des isolants, il n'y a pas de filière, peut-être qu'il n'y en a pas dans les Landes.
Alors, des entreprises ou des coopératives qui ont essayé de revaloriser la laine pour l'isolation des maisons, il y en a. Hein, dans les Pyrénées-Atlantiques, je connais une coopérative qui a essayé. Mais c'est marginal par rapport à la consommation de laine, par rapport déjà au tonnage de laine qui existe et par rapport au tonnage d'autres formes d'isolants qui sont réellement achetées. Donc, oui, des initiatives pour valoriser la laine, il y en a, hein, ça existe, mais c'est toujours très marginal, infime par rapport au tonnage de laine qui est réellement produit.
Pourquoi est-ce que c'est marginal ? Est-ce que c'est parce que la communication ne passe pas ou bien parce que finalement il y a une concurrence par rapport à des produits plus industriels ?
Ben c'est un peu tout ça. C'est que des habitudes de consommation ont été prises. Revenir à des matériaux naturels pour la construction des maisons, bien qu'il y ait des plans de relance, enfin, bien qu'il y ait des volontés en tout cas affichées, dans les faits, on peut tous regarder autour de soi. Les maisons sont construites en minorité, très très forte minorité, avec des matériaux naturels, bien que ces matériaux ils existent. et il serait disponible. Donc voilà, c'est la communication, c'est le tissu industriel qui ne le favorise pas, c'est tout un ensemble de choses.
C'est le moment de la seconde pause musicale avec une chanson que vous avez choisie de Fleetwood Mac, Go Your Own Way, c'est-à-dire trace ton propre chemin, c'est ce que vous avez fait. C'est ma nature et chez Isabelle Cazobon, éleveuse de brebis à Banos. Dans la première partie, elle a présenté son parcours et dans la deuxième partie, elle a décrit son exploitation. Alors maintenant, donc Isabelle, vous allez nous parler de votre projet, votre projet de commercialisation, de fabrication d'abord et de commercialisation des fromages, puisque c'est votre activité principale.
Donc c'est mon activité principale et qui me tenait à cœur. Je voulais aller jusqu'au bout de la démarche, donc produire les fromages, les affiner, donc j'ai le saloir à la ferme, et les commercialiser. Et je voulais aussi que les gens puissent venir à la ferme. Ça faisait partie de mon projet, ça, de voir du monde, moi, de me déplacer sur les marchés, mais que aussi la ferme soit ouverte. pour qu'ils viennent voir, commencer, qu'il y ait une transparence totale, quoi. Donc je vends pas mal à la ferme, je vends aussi sur deux marchés, mm-hmm. à Saint-Sevé et à Eugénie-les-Bains. Je vends à deux AMAP, celle de Saint-Sevé et celle d'Amou. Et quelques restaurants, quelques épiceries, voilà.
Vous êtes en conversion bio, si j'ai bien compris ?
Donc là, actuellement, à la ferme, je suis sur un autre projet auquel je pensais depuis longtemps, mais que j'ai concrétisé depuis l'année dernière, c'est la conversion à l'agriculture biologique. Alors, je travaille sur ce modèle-là depuis 2012, depuis que je me suis installée. C'est-à-dire, je suis, pour ainsi dire, pratiquement en agriculture biologique sur presque toutes les étapes de la ferme, sauf quelques-unes qui restaient à, on va dire, modifier. Mais on va dire que ce n'est pas une grande conversion puisque je suis déjà sur ce modèle-là à pratiquement 98%. Et ça me tenait à cœur aussi parce que pour moi c'est une aventure technique, puisqu'on n'a plus la possibilité d'utiliser des produits phytosanitaires, on n'a plus la possibilité d'utiliser un certain nombre de choses pour les animaux non plus. Donc on est obligé de retrouver des savoir-faire, des technicités qu'il faut qu'on développe nous-mêmes puisqu'on est un peu seul. Pour réapprendre à faire du maïs sans produits phytosanitaires, c'est pas une mince affaire, pour maîtriser l'herbe, pour maîtriser la fertilisation aussi. Donc moi, je vois ça comme une aventure, comme un projet qui aboutira ou pas. Enfin, moi, j'espère qu'il aboutira, bien sûr, mais je le vis vraiment comme une aventure. Et un mieux aussi pour l'environnement de la ferme, puisque j'arrête d'utiliser des produits qui me semblent nocifs à terme. Donc du coup, ça, c'est terminé. Je me concentre plus sur la production et l'achat de matières premières naturelles qui rentrent dans un cycle sur la ferme. Donc ça aussi, ça me tenait à cœur, quoi, pour la durabilité de l'espace dans lequel je vis, qui ne m'appartient pas, que je, d'une certaine façon, j'ai hérité. J'espère qu'il continuera donc, et que ce soit transmis dans des bonnes conditions.
Alors par exemple, qu'est-ce que vous utilisiez comme produit avant de passer à cette conversion ?
Le principal changement, c'est sur la culture des céréales, donc de l'orge et du maïs, qui étaient produits jusqu'à présent en conventionnel. Donc on utilisait du désherbant, voilà, là c'est plus possible, et on utilise des traitements de semences, donc la semence qu'on achète dans le commerce auprès des coopératives est enrobée d'un insecticide qu'elle va transporter pendant toute sa vie contre les insectes qu'elle aura plus tard, qui peuvent l'unir plus tard, ou alors des traitements de semences aussi contre les vers qui pourraient manger le maïs qu'on vient de planter, vous voyez. Sur le maïs c'est essentiellement ça. Donc sur l'orge, c'est aussi du désherbant et certains font des traitements fongicides, moi je ne le faisais pas. Donc c'est essentiellement en fait la lutte contre l'herbe qui va être remplacée par du labour, de la bineuse, des changements aussi dans les dates de production, c'est-à-dire quand on fait l'agriculture bio sur des cultures de printemps, on essaie de semer beaucoup plus tard. Là, semer le 15 avril du maïs en bio, c'est pratiquement pas possible parce qu'on sait qu'il y aura de l'herbe après, il vaut mieux attendre. Donc c'est retrouver des savoir-faire ou trouver des savoir-faire qui sont différents.
Est-ce que vous n'avez pas peur, en semant plus tard, beaucoup plus tard que le 15 avril, d'être confronté à des épisodes de sécheresse ?
Ah mais si. Mais ceux qui sèment le 15 avril sont confrontés aussi aux risques climatiques. Donc là, malheureusement, par rapport au climat, ça c'est une vraie justice, c'est la même pour tous, hein, qu'on soit en bio ou qu'on soit en conventionnel, à part celui qui irrigue bien sûr, mais bon, moi je n'irrigue pas, mais là pour le coup c'est une justice équitable.
Alors du coup, si vous n'irriguez pas, quel type d'arrosage pratiquez-vous ?
Ah ben là, j'attends après la pluie.
Non mais est-ce que vous semez peut-être dans des endroits que dans le Béarn on appelle les ribères, c'est-à-dire des endroits qui sont près des rivières en fait et des cours d'eau, quoi.
Alors moi je suis sur une ferme en coteau de Chalosse, donc j'ai pas de rivière qui coule à proximité, j'ai quelques bas-fonds mais qui sont pas très importants, mais par contre je tiens compte quand même de la qualité des parcelles, donc ça je le sais sur la ferme parce que c'est l'histoire de la ferme, on sait qu'il y a telle parcelle qui est meilleure qu'une autre, vous voyez. Donc le maïs, je vais essayer de le faire plutôt sur une parcelle qui est réputée de bonne terre, vous voyez. J'ai repris du fermage grâce à un agriculteur qui a pris sa retraite et qui m'a laissé des terres en fermage, donc lui aussi m'a conseillé, m'a dit sur cette parcelle là tu peux y faire du maïs, sur celle là je te déconseille. Donc c'est plutôt par la mémoire de ceux qui ont travaillé avant qu'on sait.
Alors, il y a eu pendant des siècles et des siècles une pratique qui était celle de l'assolement. Est-ce que vous envisagez éventuellement d'utiliser cette pratique? Parce qu'à force de planter toujours la même culture sur la même parcelle, on peut avoir des problèmes aussi.
Alors ça, moi, je suis bien évidemment, je suis d'accord avec vous et je le fais ça depuis que je suis en 2012. Donc, bon, bien sûr, les prairies, elles sont implantées, elles restent en place au même endroit, j'espère, pour très longtemps. L'objectif, là, c'est de les faire durer, donc c'est l'inverse. Mais sur les cultures, là où j'ai fait du maïs, l'année d'après, je ne vais pas en refaire. Et inversement, là où j'ai fait de l'orge, l'année d'après, je ne vais pas en refaire. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que sur une parcelle qui est cultivée, je vais faire maïs, orge, après en prairie, vous voyez, et après je vais aller faire maïs orge sur une autre parcelle, et ainsi de suite.
Donc vous nourrissez vos brebis avec ce que vous produisez comme herbage sur la ferme, et ensuite donc vous les triez et vous faites des fromages avec. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous faites ces fromages?
Donc j'ai appris à faire le fromage dans les Pyrénées, essentiellement à l'Anambaretus, et je fabrique donc de la tome des Pyrénées, on va dire, sauf qu'elle est de Chalos. Donc je travaille avec du lait cru, ça veut dire que je pasteurise pas. Donc après la traite, donc on prend le lait de la traite, on le fait chauffer jusqu'à 32 degrés pour l'emprésurer. Donc la présure, c'est donc le liquide qu'il y a dans l'estomac des ruminants et qui contient une enzyme spéciale et qui va en fait faire cailler le lait. Donc en fait, le lait se rigidifie. Vous voyez, le cailler, je pense tout le monde sait ce que c'est. Donc on fait cailler le lait à cette température, on le laisse poser. Et au bout d'un certain temps, alors là, ça dépend des gens. Chez moi, c'est... deux fois le temps de prise, bon bref, on vient pour, on appelle ça trancher le cahier, c'est-à-dire que ce cahier qui s'est formé dans le chaudron, on l'émiette et on en fait des petits morceaux. Alors il faut vraiment le faire, c'est une étape importante ça, donc moi je le fais à la main, c'est pas mécanisé, et une fois que ce cahier il est émietté, alors de la grosseur entre un grain d'orge et un grain de maïs, on refait chauffer, et là on fait chauffer jusqu'à 38 degrés, et en même temps on brasse. Donc c'est pour ne pas que ça accroche, pour que ce soit bien mélangé, que la température soit bien homogène. Et à 38 degrés, donc on coupe le feu et on laisse reposer. Et après on ramasse le cahier qui s'est reformé en fait et qui s'est déposé au fond du chaudron. Et ce cahier qui s'est reformé, ben, c'est le fromage. On le met en moule, on le presse. Et le lendemain, on le met au sel. Voilà la fabrication de la tome.
Et vous la vendez donc chez vous et ailleurs?
Donc j'en vends à la ferme. La ferme, elle est ouverte. Il suffit de m'appeler par téléphone pour être sûr de me trouver. Et vous pouvez venir pratiquement toute l'année. Il n'y a pas de souci. Et donc, comme je disais, je vends aussi au marché de Saint-Sevé tous les samedis matins. Et au marché de Génie, alors quand il est ouvert, c'est-à-dire de mars à novembre. Je suis dans deux AMAP, la MAP d'Amou et la MAP de Saint-Sevé. Quelques épiceries aussi, mais globalement je ne vends pas à plus de 80 km, vous voyez, donc j'arrive à vendre presque 2 tonnes de fromage localement.
Alors c'est très bien pour l'empreinte écologique.
Là, c'est pour le coup, c'est vrai que c'est difficile de faire mieux, j'ai envie de dire, enfin, je vois pas comment je pourrais faire mieux à ce niveau-là.
Alors vous allez donner vos coordonnées à nos auditeurs s'ils veulent venir chercher du fromage chez vous.
Donc c'est la ferme Péos à Banos, et le numéro de téléphone, c'est le mieux pour me contacter, c'est le 06 73 79 40 35. 06 73 79 40 35.
Eh bien merci beaucoup, donc nous allons nous séparer, en vous remerciant aussi pour votre accueil. Adi Schatz à tous les auditeurs.
Adi Schatz.
Adi Schatz.
C'était les Landes et ma nature, l'environnement dans notre région, avec Jeanne-Marie et Marie-Claire.
Les Landes, c'est ma nature, le lundi de 15h à 15h30, rediffusion en trois parties, le mardi, le mercredi et le jeudi à 13h sur MDM.